Donc merci d'être là. C'est une nouvelle formule que l'on inaugure aujourd'hui. Donc je suis très heureux d'accueillir Bruno Taquels et Georges Banu pour ces 5 regards critiques. On a appelé ça comme ça, c'est un peu une autre formule de rencontre avec les artistes. Il y a celle organisée par les CMEA, donc c'est des dialogues directs entre un artiste et le public. Et avec Bruno Taquels et Georges Banu, on avait envie de se poser des questions par rapport à la programmation, des questions qui traverseraient le programme. Donc il y a 5 questions qui se sont posées à partir du programme que nous proposions. Donc aujourd'hui, c'est le premier débat, formulé les auteurs de la scène, avec 3 artistes très importants de notre programmation, Yann Lowers, Constant Samacras et Yann Fabre. Voilà, donc je voulais remercier Georges et Bruno pour cette nouvelle formule. Merci beaucoup. Et je profite d'avoir le micro pour faire une petite annonce. Je vous rappelle que certains soirs, à Benoît XII, il y a un cycle qu'on a appelé la 25e heure, c'est à 1h du matin. C'est des formules plus libres, plus ouvertes, plus impromptues. Ce soir, c'est le deuxième artiste invité de cette 25e heure. C'est un auteur, poète, performeur qui s'appelle Christophe Fiat. C'est vraiment un artiste à découvrir. Donc voilà, ceux qui ont courage à 1h du matin, à Benoît XII. Merci.
Voilà, en deux mots, Vincent Baudrier vient de le préciser, il s'agit de regards critiques, à savoir donc il s'agit simplement d'une réflexion inspirée par la programmation principalement, mais aussi par l'état du spectacle vivant aujourd'hui, des problèmes soulevés par le spectacle vivant aujourd'hui. Ces débats sont des débats un peu transversaux, qui ne sont pas liés uniquement au spectacle, mais plutôt à des démarches d'artistes qui se croisent ici. Nous avons une programmation qui est, sur le plan thématique, le fruit d'une collaboration entre la direction du festival et Bruno et moi. Le planning est aussi fonction de disponibilité des artistes, ce qui fait que nous avons le prochain débat, donc aujourd'hui c'est sur les auteurs de la scène. Le 18, c'est le second débat autour d'une question essentielle qui est se servir du texte. Qu'est-ce que ça veut dire se servir du texte? Quel est le statut du texte aujourd'hui? Le 19, il y a une question qui est, à mon avis, essentielle pour l'ensemble des pratiques du spectacle vivant aujourd'hui. Est-ce que la fonction, c'est de toujours diviser, comme le disait Brecht, ou au contraire, de restaurer le lien, terme que nous empruntons à Thomas Ottermeier? Et donc, c'est, je pense, un grand débat qu'on peut avoir sur le spectacle vivant et son public d'aujourd'hui. Enfin, le 22, nous avons pensé que c'était extrêmement important de profiter de la présence des acteurs qui sont impliqués dans le parcours des artistes et qui, en même temps, prennent eux-mêmes des positions qui assument leurs responsabilités. Donc nous avons intitulé le débat du 22 des acteurs, jeu et enjeu. Et le dernier débat, c'est le 24, autour de l'institution théâtrale, autour de la problématique donc, du centre et de la marge, de la meilleure manière de s'installer dans cette rapport, dans cette relation dialectique entre le centre et la marge, tout en étant soit au centre, soit au contraire, essayer de préserver les vertus subversives de la marge. Donc, rapidement, ce sont ces 5 débats, c'est le regard critique que nous proposons, et les artistes invités sont des artistes qui sont plus ou moins sensibles à l'un ou l'autre des sujets traités. Peut-être on peut dire deux mots sur les auteurs de la scène. Je vais commencer. Peut-être avant de commencer, je voudrais vous lire voilà, je voudrais vous lire un texte que peut-être vous avez lu et qui nous semble assez important parce que c'est un texte lié aux auteurs de la scène et à la question du contemporain, parce que c'est ce dont nous allons parler. Donc Patrick Lelay, PDG de TF1, écrit dans son livre « Les dirigeants face au changement ». Le métier de TF1, ça se peut être le produit. Le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Je crois que ces déclarations de Patrick Lelay sont des déclarations extrêmement importantes pour le contenu du débat d'aujourd'hui.
Et pas que d'aujourd'hui. Voilà. C'est important de partir de cette épigraphe parce que, pour faire une première remarque comme ça qui va nous amener progressivement à la notion d'auteur de la scène, j'ai le sentiment que les choix du festival cette année, derrière le débat sur nouveauté, rupture ou continuité, prolongement, marquent une vraie volonté politique. Je crois que ce mot-là, ce mot si compliqué, il a retrouvé quand même une énergie réelle, vitale, et en particulier à partir de cet espace-ci du Cloître Saint-Louis. Je vais parler bien évidemment de ce qui s'est passé en juillet 2003 à cette même table, on peut dire, à cette même table, et que quelque chose dans le paysage théâtral et peut-être culturel du largement français s'est joué, s'est déjoué là, et peut-être nous avait pris conscience d'un certain nombre de réalités. À savoir que le théâtre, déjà, c'est un espace public qui est un espace de débat. Pour ceux, je pense qu'ils sont nombreux ici, qui se souviennent des éditions, mettons, des fin 90, début 2000, la notion même de débat, ici, dans le festival, c'est une notion complètement périmée, une notion un peu ringarde. Ou alors c'était la chose qu'il fallait faire, les artistes faisaient des débats parce qu'ils fallait faire des débats, les publics artistes avaient des débats parce qu'ils fallait... D'ailleurs, ils n'existaient plus à des débats. Il y avait une sorte de déréliction comme ça de la parole publique, la parole... Et c'est vrai que dans la réflexion, comme j'ai un peu ce qu'elle dit l'instant à l'instant, dans la réflexion qu'on a menée pour proposer ces cinq débats, nous nous sommes dit, il y a quelque chose, un espace public à réinvestir. Nous ne sommes pas les seuls à nous le dire, je crois qu'il y a beaucoup de structures, d'institutions, d'associations ici en Avignon qui ont cette intention et cette exigence, ce désir, plutôt attendu une exigence, de mettre en commun des questions. Mais ce qui me paraît être vraiment nouveau et important, c'est que le politique revient largement dans l'espace du théâtre. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler au cours de ces différents débats. Il y a différents noms propres des artistes qui sont programmés dans le festival suffisent à le démontrer largement. Je crois qu'aucun d'entre eux ne resterait insensible à ce qui est dit là. Et pour dire les choses de manière plus polémique, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les artistes susceptibles d'être invités au festival d'Avignon. Voilà, enfin, ça c'est le premier point. Ensuite, peut-être pour nos amis qui ne sont pas français, il faut dire une chose encore plus violente que ce qui est dit là, c'est que cette télévision privée, il faut faire un travail de commerce sauvage, c'est bien son droit, mais le problème c'est que tout le service public, télévision et paysage théâtral compris, sont menacés par cette même dérive. Moi, c'est ça le point de butée politique qui nous occupe. Voilà, c'était pour faire un petit commentaire quand même sur l'exergue de Georges Manu. Et peut-être maintenant, on peut plus particulièrement entrer dans la notion d'auteur de la scène.
Très rapidement, je pense que c'est assez important de rappeler que l'idée d'auteur de la scène est une idée qui, on ne va pas faire un cours très développé d'une histoire du théâtre, mais qu'avec la naissance du théâtre moderne au début du siècle dernier, du XXe siècle, l'idée paraît, et c'est un grand utopiste, ce sont deux grands utopistes, Gordon Gray et Antonin Artaud, qui défendent l'idée d'un spectacle qui est élaboré en dehors de l'autorité du texte, des spectacles où ce qui compte, c'est l'existence d'un maître d'œuvre réunir sans hiérarchiser l'ensemble des éléments d'une représentation, à savoir le corps des acteurs, les paroles, les lumières, etc. Donc l'idée de Gordon Craig, c'était l'idée que la scène peut engendrer elle-même ses propres spectacles, peut s'appuyer sur ses propres ressources sous l'autorité de ce grand maître d'œuvre. Cette idée est une idée qui a été perçue longtemps, comme une utopie, comme quelque chose de, disons, de contraire à la nature même du théâtre. Et seulement dans la deuxième partie du XXe siècle, deux grandes figures, Robert Winston et Thaddeus Cantor, vont résoudre à leur manière différente ce problème, à savoir, vont accomplir sur le plateau des spectacles d'auteurs dont ils sont les signataires. Donc des spectacles qui ont désormais une signature, la signature de Wissam ou la signature de Cantor. Dans la mouvance de ces artistes, toute une filiation va apparaître, surtout une filiation cantorienne, et nous pouvons inscrire dans cette filiation des gens comme, en France, Norco, François Tanguy, Natch, etc. Ce qui est frappant, c'est que le problème de l'auteur de la scène est un problème qui va être d'abord marqué par le rapport à la mémoire. Je pense que c'est l'influence de Cantor. Les spectacles de Tanguy, de Natch ou de Norco sont des spectacles qui ont rapport à la nuit, qui ont des rapports à... sont principalement des spectacles de mémoire. Aujourd'hui, les spectacles d'auteurs sont de plus en plus nombreux. On va essayer de le parler, mais il y a une tension entre les spectacles d'auteurs qui s'appuient sur la mémoire et surtout, de plus en plus, des spectacles d'auteurs qui partent du contemporain, qui font justement du contemporain la matière première de leur réalisation. Donc la question c'est soit des spectacles d'auteurs qui ont pour valeur, ou pour fonction de faire ressurgir la mémoire, qui ont une valeur plus ou moins, entre guillemets, proustienne, soit au contraire des spectacles d'auteurs qui sont, pour reprendre une formule de François Bon, des actes de reconnaissance. Donc peut-être on peut poser une première question. Comment les artistes qui sont ici, qui sont tous des auteurs de la scène, se placent au cœur de cette problématique passé-présent, mémoire contemporaine.
Et question subsidiaire, vous reconnaissez-vous dans cette catégorie d'auteurs de la scène que je viens d'évoquer? Peut-être pas d'ailleurs. J'ajouterai comme sous-question cette catégorie d'auteurs de la scène que Georges vient d'exposer. Moi, je rajouterai juste une petite chose, c'est qu'au fond, aujourd'hui, il est frappant que les trois artistes qui ont répondu à l'invitation sur leur planning, il n'y aurait pu y en avoir d'autres, hein, il faut bien dire que ces rencontres sont ouvertes aux artistes programmés dans le festival, ça aurait pu en être d'autres. Mais il me frappe beaucoup l'idée que ces trois artistes qui sont ici présents sont des gens qui ne montrent absolument pas un texte du répertoire européen ou occidental. Je pense qu'à 10 ans, nous aurions eu quelqu'un qui monte un Tchekhov, un Brecht et un Schill. Voilà. Nous ne serons pas avec la notion d'auteur de la scène. Nous n'aurions pas pu mettre cette rencontre sous le sigle auteur de la scène. Il est évident que les artistes présents dans le festival cette année sont des gens qui, par eux-mêmes, font autorité sur le plateau lui-même. Le point de départ, ce n'est pas le texte, c'est l'autorité du plateau, la signature du plateau. Voilà comment je poserai la question.
Je ne sais pas si le point de départ pour un artiste est toujours le médium qu'on utilise quand on fait une peinture, quand on fait une danse, ou la musique, la littérature. Le point de départ est toujours le médium. Et on utilise le médium. Moi, je ne pourrais jamais dire que je suis un metteur en scène, je ne pourrais jamais dire que je suis écrivain. j'utilise le théâtre comme, comme un médium, j'analyse le médium, j'essaie de redéfinir le médium. Et quand j'écris, je ne suis pas écrivain parce que j'écris vraiment pour le théâtre que moi je veux faire. Et je ne sais pas si c'est intéressant pour un autre pour le faire, mais j'espère bien que ça... Il y a des autres qui ont déjà fait des textes de moi, mais ça, ce n'est pas mon but. Hein. C'est pas mon but, c'est moi comme artiste qui est dans mon atelier en train de faire des dessins, des écritures, et ça vient ensemble. C'est un tout total. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le théâtre, parce que ça, c'est un médium qui est très... qui sont globés de transformer.
Par exemple, il y a pas de jeu, je suis sans. Je suis sans, le spectacle que nous avons pu voir il y a deux ans, là, dans la cour, c'est un spectacle où il y avait un texte de vous pour la représentation qui a été publié à part, mais en même temps, ce texte peut-il être repris par quelqu'un d'autre ? Est-ce que ce n'est pas inscrit dans le projet comme un des éléments parmi d'autres?
Yes, the text could be taken by the because otherwise I would not publish it. But the writing of the text implicates that every director who wants to do it will re-see or will direct in a completely different form, because the text is so written in a completely different form that when you want to do the text you're already opposed with another kind of thinking about the event, another kind of thinking about what a stage is and what an actor is.
Le texte pourrait tout à fait être repris par quelqu'un d'autre, sans quoi je ne l'aurais pas publié, bien ça. Mais le texte en lui-même est tel que toute personne qui voudrait reprendre ce texte serait forcée de revoir, de repenser son théâtre, de repenser le rythme de la pièce, de repenser l'ensemble de la scène, le texte en lui-même.
A lot of times for me, the way we work with text in the company is more like we work like dance. So it comes from the dancers and it comes out of improvisations, and there's an idea, like we improvise over an idea always, because dancing is so abstract. But I mean, the work is more on the theatrical side, I'm saying. So, and sometimes I work with writers as well. I mean, somebody to write the text for me. And most of the time it doesn't work because it becomes like a piece of theater inside the play. And it's really difficult to fit it in, no? Because suddenly it's two characters, but they're very defined. And I don't know, they don't really speak like people for me. So then we end up chopping everything and leaving apart. I mean, like less piece has the text written for the writer. It became a monologue, it was a whole scene. So it's worked a bit like choreography, and it's worked through the piece in terms of like what's needed for it, right? The work, all the work itself anyway, it's not because of the stage, it's like, okay, it comes from an idea, and then also like a bunch of things that are running around, and there's some movements, and so it's a layer, like it's one more layer. So, like, for me also dance is one language too, you know, so it has many different languages, and I don't have my own dance language.
Moi, je travaille un peu avec le texte comme je travaille avec la danse, et en fait c'est un peu deux éléments qui pour moi ont un poids plus ou moins égal. C'est vrai que j'ai déjà essayé dans le passé l'idée de travailler avec des écrivains à qui je commandais des textes et je leur demandais d'écrire un texte sur une pièce, et je me rends compte que très souvent ça ne fonctionne pas parce qu'on finit par avoir un texte ou une pièce qui se trouve comme une pièce dans la pièce avec le rythme des danseurs qui eux font des mouvements. Les deux personnages du texte par exemple sont beaucoup trop définis, beaucoup trop carrés, ça ne va plus du tout avec ce que le danseur voudrait exprimer. Et donc en général, je trouve que c'est pas une expérience qui est particulièrement convaincue.
Ouais, ce qui me frappe dans cette première réponse, c'est que la formule « je travaille la danse comme je travaille un texte », ça répond très concrètement à ce qu'on essaie de dire dans cette notion d'auteur de la scène. C'est-à-dire qu'au fond, il y a, pour reprendre le mot que j'ai évoqué, plus de hiérarchie entre celui qui décide pour le plateau, qu'on appelait avant le metteur en scène, ou le régisseur encore avant, il y a plus de hiérarchie entre celui-là qui commande et les différents éléments qui viennent, qui auparavant étaient sous sa maîtrise, sous sa, qui était sous son emprise. On a le sentiment qu'au fond, là, c'est presque le plateau qui appelle la décision artistique. Oui, c'est une question.
Oui, parce que... Oui, non. Parce que je commence à parler en français, je pense que j'ai trop de mots. Non, I go on in English. Yeah, I mean, the stage itself, because suddenly you have it happened with that piece, for example, we have a scene, that it, the scene that it was written, suddenly it looked like youth theater, because we did it like that, you know, and it was, it had nothing to do with anything else within the play. So then, of course, the stage, when you're putting something together, decides that there's things that they have to go on, you know? And that's how it's cut and restructured. She and I were working on the piece, and when we put it together, we definitely seen that it was written completely by somebody else, and I had to change it because it was.
Oui, je reviens à l'exemple du Genet. On a pu essayer de travailler avec un texte dans le passé. On avait un texte qui était bien carré, qui avait été monté. Puis quand on s'est mis sur la scène et qu'on a vu ce que ça donnait, il a fallu pratiquement tout réécrire, tout refaire, parce que ce qui se passait sur la scène n'avait plus rien à voir avec ce qui avait été écrit au départ.
On a observé. Ah, pardon.
Pour moi, c'est un peu le contraire. Hein. Quand j'ai écrit une chanson d'Isabella, par exemple, j'ai écrit tout seul dans mon atelier, comme j'étais même peinture dans un atelier, on est seul. Je trouve que c'est très important comme artiste pour être très seul. Je ne crois pas dans l'idée du collectivisme pour aller très profond. Donc je dois avoir cette période de très seul, ça peut être la nuit, ça peut être 6 mois, pour travailler. Et quand je suis prêt pour avoir une confrontation avec les danseurs ou les acteurs, je vais faire cette confrontation. Mais je dois avoir un truc dans les mains qui est très profond, comme ça, si on a besoin si on commence à travailler avec les acteurs, les danseurs, il y a une espèce d'improvisation dans les répétitions, mais la base de ça est déjà très élaborée, sinon je perds le chemin. Donc pour moi, la chambre d'Isabella, le cœur de tout est le texte. Et quand le texte en soi peut être lu, on peut faire un film de ça, n'importe. Un autre metteur en scène peut faire un spectacle de ça. Mais pour moi, c'est très important d'écrire ça maintenant. Et le choix, par exemple, d'être sur scène, c'est pas le choix que Camto a fait à l'époque, je sais pas pourquoi il était sur scène, mais pour moi c'était pour montrer au public la simplicité, la naïveté en fait. Je dis, écoute, moi j'ai écrit ça, tu vas raconter des histoires et on va faire ça ensemble. Cette énergie est très importante. Cette naïveté, je pense, le choix d'être sur scène comme écrivain ou comme metteur en scène, provoque un certain. Ça peut être très arrogant. Et donc, je prends le risque pour être arrogant, mais je veux être très naïf. Pour montrer que. Moi, je sens que dans la société, il y a trop d'angoisse maintenant. Le mensonge est transmis en angoisse. Et on est maintenant dans une sorte d'entre-temps, à mon avis. Donc, tous les débats qu'on fait maintenant sont des débats après la mort. Et quand on a déclaré Dieu mort, on peut de nouveau être religieux. On a déclaré la peinture mort, comme avec Duchamp, on peut repeindre de nouveau. Et maintenant, on déclare le théâtre mort, et on va peut-être finir à déclarer les débats morts, comme ça on peut parler de nouveau.
Une question qui se pose, c'est que dans la définition originaire comme ça, des auteurs de la scène que donnait Craig ou Artaud, il y avait constamment l'idée du spectacle entièrement fixé, du spectacle qui échappait à l'éphémère du plateau, qui échappait à l'accident. Est-ce que dans les spectacles que vous faites, quelle place vous laissez, Yann Fabre, vous, Constanza, ou Yann, quelle place vous laissez à l'accident, à l'improvisation? Est-ce que le spectacle est définitivement élaboré par vous, avec l'équipe, ou au contraire, le spectacle s'adapte, reste libre? Est-ce qu'il y a un spectacle qui joue, qui a du mouvement?
With me, it's, as I say, the first performance looks almost 50% different than the last performance. So it's, I'm always like, for me, a theater piece or a stage work is not a wash machine. So it's a live art, and I'm always with my actors and dancing, rethinking, reworking, resetting. It's an evolution. Even when I'm to meet with my actors, we don't stop to work or to write. So it's a way of thinking and rethinking, I think, for me.
En ce qui me concerne, si je prends la première d'un spectacle et puis je prends la dernière, il y a en général 50% des éléments à peine qui sont les mêmes. Donc pour moi, une pièce de théâtre, c'est un travail en progression permanente, c'est un travail de repense, on retravaille tout le temps et constamment les différents éléments. Une pièce n'est en aucun cas comme une machine à laver qui aurait le même cycle à chaque fois, mais c'est quelque chose qui évolue, que l'on travaille encore et encore et qui ne ressemble finalement jamais à la première.
Je pense que ce que je fais comme quand je prends la position d'un metteur en scène, je pense que qu'est-ce que je fais pendant les mois d'inscription, c'est d'élaborer un code. Et quand le code est clair, les acteurs, les danseurs doivent re-questionner mon autorité. Donc dès qu'ils sont sur scène, et le code est très clair, la communication avec le public peut commencer. Si le code a raté, j'ai raté. On peut comprendre avec un match de football, si le ballon dans le champ, quand on joue un match de football, on ne peut pas jamais faire le même match. Si on sait comment on peut gagner, le football est fini parce que c'est nul. Si c'est toujours le même parcours qu'il fait, on le sait déjà, donc ce n'est pas intéressant. À mon avis, on doit toujours, chaque nuit, ou chaque spectacle, on doit créer et pas recréer. On doit produire et pas reproduire. Et c'est pour ça qu'on doit avoir un code très clair. Ça peut être un code très discipliné, comme souvent avec le travail d'ensemble. Ça peut être un code qui est plus libre, mais le code doit être très clair. Sinon, ça va.
I have something similar when I was to work with part of the structure to give us, but it's the level of so many different scenes, and there's a lot of accidents for me, especially these accidents have to happen, and because if I have everything super clear from the beginning, which I sometimes do, probably the piece won't be so good. So in my case, you know, for the kind of work I do, so I'm always waiting for these accidents to happen. And it's also happen when people is really tired and they work a lot, and then suddenly people is working hard to get in the room, and then one thing starts to match the other and things like that. But most of the time, people is exhausted. So it's part of the process of working, and then just waiting for something great from all the stuff we did, and then things match the other.
Je dirais, je me situe un peu aussi dans ces deux-là, c'est-à-dire qu'il y a une structure de départ. Mais généralement, mes pièces sont faites de toutes petites scènes avec beaucoup d'actions, et il faut qu'il y ait de la place pour ces actions, qu'il y ait de la place pour une évolution de ces actions. Généralement, c'est le résultat d'un travail permanent, et c'est souvent quand on est tous tout à fait fatigués, qu'on est crevés, que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, une petite étincelle, tout d'un coup, on se rend compte que tel élément correspond à tel élément, puis les choses se font en place, et c'est souvent les moments de fatigue extrême.
En même temps, pour moi, par exemple, avec la chambre d'Isabelle, il y a, pour être clair, il n'y a pas un moment d'improvisation. Donc chaque mot, chaque truc est vraiment fait, mais en même temps, on cherche toujours la liberté. Donc on doit balancer, mais c'est jamais... On est 10 sur scène, donc on doit avoir un code très clair et on doit maîtriser le temps. C'est ça ce qu'on fait comme acteur, on met tout le temps en jeu.
Vous pouvez peut-être passer en vue une question pour revenir un peu sur l'ensemble de votre parcours. Revenir à cette notion du texte, on veut dire que malgré tout, il est pivot. Et on le comprend d'autant mieux quand on sait que vous êtes attelé à la tâche de monter Shakespeare, monter des pièces de Shakespeare. Mais on peut, me semble-t-il, surtout pas dire que vous voulez monter comme un metteur en scène monte une pièce de Shakespeare. Comment est-ce que vous qualifieriez cette façon de vous emparer de Shakespeare, même si le texte reste de la matière?
Donc Shakespeare, c'est une metteur en scène. Un metteur en scène n'est pas un artiste. Un metteur en scène, c'est un metteur en scène.
Et c'est quoi alors un metteur en scène? C'est peut-être une affaire de
définition. Disons, on peut dire qu'un metteur en scène est... Bon, on peut dire que c'est 50% un artiste. Parce qu'un artiste va commencer derrière, de blanc et le monde en tout cas. Si l'artiste est Shakespeare, et le metteur en scène peut être un serveur, un servant, je ne sais pas, de Shakespeare. C'est pour ça que j'ai fait ça quelques fois, et pour le reste, ça ne m'intéresse pas. C'est pour les acteurs de mon ensemble que j'ai fait Shakespeare. Et pour apprendre, et pour avoir une confrontation pour moi-même avec l'histoire. Je prends Shakespeare parce que c'est tellement. J'essaie de suivre, de comprendre ce qu'il voulait dire. Et à la fin, j'ai hâte de Shakespeare être content, on était avec un coup d'osé, et on gagne jamais cette lutte avec lui. Donc, c'est un bon lutte, mais je me sens très humble et je ne suis pas capable d'être artiste à ce moment-là.
Je peux rebondir de manière pas polémique, mais un peu dialectique, pour vous dire quand même que quand on voit l'ensemble des danses de Shakespeare en France, globalement, et qu'on compare avec votre travail, le passeur humble et transparent, c'est le metteur en scène français, c'est pas Yanowers. C'est un travail extrêmement singulier avec Shakespeare. Peut-être que c'est parce qu'on le voit du côté de la France, mais...
Oui, il y a un point de vue conventionnel. Si vous dites que moi je ne suis pas metteur en scène, et le metteur en scène français sont metteurs en scène humble, peut-être... Je dois avouer que j'ai jamais vu un texte en France. Donc, je ne sais pas.
Eh bien, vous en verrez, puis on en reparlera.
On s'est posé quand même la question autour de ce travail qui est le vôtre et d'autres artistes qui font qui sont des auteurs de la scène sur le rapport au réel, le rapport au contemporain. Dans le sentiment qu'on intègre beaucoup d'éléments qui viennent directement de la réalité. Et il y a un rapport qu'on retrouve. Moi, malheureusement, je vois votre spectacle seulement demain. Mais dans tous ces spectacles, il y a un travail très complexe avec la présence de l'image captée de la télévision, un détournement de la télévision. Donc, quel est votre rapport avec cette machine produit à la fois des effets pervers et des effets de détournement. Chez vous, il y a des images enregistrées en live. Vous travaillez aussi avec cette image des objets qui sont reproduits en live, comme ça, pendant le spectacle.
Je peux pas le faire ce soir avec cette optique. C'est juste pour avoir une sorte de concentration, mais c'est pas important. Moi, je pense, par exemple, avec un femme, hein, quand il fait son travail, je veux voir ce qu'il fait avec. Parce que quand on voit le travail d'un femme, on voit le travail d'un femme. Si lui publie son texte, je pense, ok, il y a des autres qui peuvent peut-être mettre un texte lui sur scène, mais pour moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que je veux voir lui avec son travail, et c'est un autre le fait. Ça va être moins fort. Voilà. Donc ça c'est nul, un peu, c'est bizarre. C'est pour ça que j'ai toujours pensé, et maintenant on demande pour publier la chambre d'Isabelle, je dis, ok, mais ça n'intéresse pas trop.
Mais je crois que c'est un statut intéressant du texte. Ce sont des textes qui sont plutôt des textes de scène qui existent dans le contexte de l'ensemble des moyens de la scène, et que isoler ce type de texte ensuite, ça pose problème. Et par exemple, il y a très longtemps, quand Ariane Mnouchkine avait fait un spectacle qui s'appelait L'âge d'or, elle a toujours refusé de publier le texte. Parce que c'était un spectacle où le texte avait le même statut que les images, l'espace, etc. Mais pour revenir à cette interrogation, quand même, parce que dans Castor, le travail de l'image télévisuelle est extrêmement important. L'homme, l'acteur, face à l'image et en même temps l'enregistrement, chez vous, dans le dernier spectacle que je vois demain aussi, la télévision est très importante. Chez vous, Constanza, je ne sais pas comment... quelle est la place de... On a le sentiment que les auteurs de la scène considèrent que le travail sur le contemporain, c'est un travail aussi d'interrogation et de combat avec l'enregistrement en direct ou pas.
Maybe I'm not a contemporary artist. I'm a very old-fashioned classical artist. I never worked with television images on my stage. The project I'm presenting now, Angel of Death, it's not television, it's not video, it's film, it's pellicle. And for the reason, the chemistry of pellicle is completely different. The images I create for this movie are based on manipulated colors, and the anatomy of two force atoms in the movie is based on the Van Eyck paintings, so it's got nothing to do with contemporary life in a sense. and the reason in this project that I used this film is because simply the fact that Bill Forsyth could not remember the text, that's the reason why I created this film. I saw the piece of Van Castorp also, but it's another world, it's not my world, so it's for me far away. I'm busy with other things. I think what I try to do in my work is to create a universe, to create a route that's opposite from contemporary life, that is not based in the center of contemporary life. It's not a reflection of contemporary life. It's a thinking parkour who tries and who wishes another kind of way of thinking.
Peut-être que je dois me qualifier comme un artiste qui n'est pas un artiste contemporain, parce que je suis une forme d'artiste avec... Pardon. Je ne suis probablement plus un artiste contemporain, mais peut-être un artiste d'un autre style, un peu dépassé peut-être. Je crois que dans le spectacle que je donne aujourd'hui, L'Ange de la Mort, les images qui sont montrées ne sont pas des images de télévision, ce ne sont pas des images de vidéo, c'est de la pellicule. D'abord parce que la chimie de la pellicule est tout à fait différente. Et ce qu'on y montre, c'est des images, des manipulations d'images, en fait, du corps humain, des images de Van Eyck. Alors pourquoi ces images peut-être? D'abord parce que je travaille avec William Forsythe, c'est qu'il n'arrive pas à se souvenir d'un texte. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a créé ce film, c'était aussi en partie pour ça. J'ai vu le travail de Castor, mais je pense que j'en suis très très loin. Je pense qu'on est dans deux mondes différents. Et en ce qui me concerne, si je montre une pièce, c'est parce que j'essaie de créer un univers, de créer des racines, un univers ou un parcours peut-être qui est différent, qui s'oppose à la vie contemporaine, qui n'en est pas le reflet, et j'essaie de proposer une façon de raisonner, une façon de penser qui est assez différente.
In the last piece we're playing, there's a lot of reference to communication. That is not so much from the image point of view, it's not like you see twice, or it's more how we are trying to make everybody feel somehow very important. And somehow, like, it's just a line for. It's a point of regard for a person to be, their rhythm and. And it's an observation of how this is changing us back and forth in a way, no? Like this style of TV that is happening now, that's the idea. But
Usually, I'm not trying to refer to that all the time.
Dans la dernière pièce que je montre ici, de fait, il y a une référence à la télévision qui est assez forte, mais c'est pas que je sois obsédée par les images ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'il y a une réflexion sur la télé-réalité, et ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'on utilise cette télé-réalité comme un point de départ, pour montrer en quoi cette télé-réalité qu'on observe aujourd'hui nous change, et vice-versa, et l'impact qu'on a. Mais c'est cette pièce-ci en particulier, et pas nécessairement quelque chose qui est dans le présent dans ce que je fais.
Par contre, dans l'ensemble des spectacles, disons, des auteurs de la scène, il y a deux éléments qui sont essentiels et qui reviennent constamment, c'est la danse et la musique. La danse, vous êtes du côté de la danse et du théâtre en même temps, mais presque l'ensemble des auteurs de la scène qu'on peut voir à Avignon et même en dehors d'Avignon convoque également presque sur le même plan la danse et la musique. Si vous pouvez expliquer un tout petit peu, je pense que c'est important de voir d'où vient ce besoin de relayer la parole par la danse par la musique, etc. Donc, d'ailleurs, à la fin de votre spectacle, on vendait un CD avec la musique du spectacle, donc ça veut dire que la musique est à la limite dissociable du spectacle. Mais la question concerne la danse et la musique dans le spectacle comme une constante.
La danse, ça a toujours été comme ça, même ceux qui ont chanté sur scène, donc c'est pas nouveau. C'est normal qu'on utilise la danse et la musique, mais je pense, pour moi, c'est de toute façon, dans notre culture occident, on ne sait plus chanter ensemble, et on ne danse plus ensemble d'une façon, mais on danse ensemble et on chante, surtout une chanson, et raconter des histoires, on a oublié ça. Si on met 10 Français ensemble pour chanter ensemble, ils n'ont pas les paroles pour chanter ensemble. Et ça, on a perdu un peu. Oui, ok, mais là-dessus. Oui, mais c'est important. En Afrique aussi. Et je sens, pour moi, si j'avais un besoin de cette sorte de simplicité. Donc on a aussi choisi, on a écrit des chansons très simples. Et on ne voulait pas, la musique est presque vide. C'est juste un... Il est là, on tournait. La musique entoure un peu le texte à ce moment-là. Mais en même temps, je pense que le théâtre, c'est une communication, c'est une source d'énergie. L'art, c'est l'énergie. Donc si on a la musique, la danse, les paroles, les gens, les objets sur scène, chaque truc a une énergie. Et c'est John Cage qui a dit d'ailleurs qu'on doit avoir au moins 5 différentes énergies pour avoir une bonne théâtre. Et je pense qu'il a raison.
Il y a ça, peut-être cette question du lien entre la danse et le théâtre. Peut-être que derrière le mot danse, on pourrait dire simplement le mot corps, l'exposition du corps en mouvement.
For me, I'm a choreographer. For me, working with dance was about, in the beginning, 25 years ago, about, in a sense, asking the question, what is movement? Why do people dance? What's the essential of why people move? And I think we all know that the essential is the sexuality. The first dances in history were based on the idea of seducing each other, giving each other's body. I look to the drawings of Lascaux. You see people dancing, killing each other, inventing erotism. Here it started at all. And for me, working with dancers, researching dancers, is researching the body in a sense. I mean, all my work over 25 years, all my work, stage work, is in a sense a research of the body. The erotical body, the physical body, the biological body, the social body. Because being busy with the body is in a sense being busy with the humankind. it's by definition, it's a political statement, because our bodies is always manipulated, changing, and every time, and to oppose something to this, to defend the body, defend the vulnerability of the body, it's in a sense, I think, my trajectory, a fil rouge in my work. And the relationship with the music is, of course, also the basis, of course, that people start moving because there are sounds. I mean, it moves people, sounds. Huh? People start composing very early. And for me, working with composers, I get a big respect for composers. It's always a challenge to find kind of real resilience between the music, the contents, why you choose music, what are the words of meaning, what is this music meaning in an historical context. All these questions are for me important in relationship to research the body, I think. Because it's almost like you research the body, you research music. Because the body is breathing, it's moving, it makes sounds, it starts already with this. So when I work with a composer, it has to be a composer who is also, let's say, aware of these kind of things. And so I work very, very close together with the composer when I invite one. Otherwise I choose music myself.
Alors, première chose peut-être, je ne suis pas un chorégraphe, mais il y a 25 ans, quand j'ai commencé à travailler sur la question de la danse, c'était essentiellement parce que je me posais la question du mouvement. Je voulais savoir pourquoi les gens dansent, pourquoi les gens bougent, pourquoi ces mouvements. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que les premiers mouvements et les premières danses, elles tournent toutes autour de la sexualité. Si je regarde les dessins de Lascaux, par exemple, on voit des gens qui dansent, qui bougent, qui inventent l'érotisme et qui inventent leur corps. Donc tout mon travail à moi, Liane Fabre, repose sur la recherche du corps, le corps érotique, le corps biologique, le corps physique, le corps social. Je pense que montrer son corps, c'est aussi prendre parti d'un point de vue politique, c'est aussi donner son visage à l'humanité. Donc pour moi, la recherche du corps et la défense du corps, c'est très certainement ma trajectoire dans le spectacle, et c'est certainement mon fil rouge à travers toutes mes pièces. Comprendre pourquoi on bouge, toujours, toujours. C'est défendre vraiment la vulnérabilité du corps. Et d'ailleurs, si on bouge, il faut savoir d'où viennent ces mouvements. De façon assez similaire, il y a la musique. Et pourquoi je travaille avec des musiciens ou des compositeurs, c'est d'ailleurs des gens que je respecte énormément. Je pense qu'il faut toujours rechercher le pourquoi de la musique et réconcilier d'une part le choix de la musique, le contenu, les mots, tout ça dans un contexte historique avec le corps, toute cette recherche liée à la musique et au corps nous semble fondamentale parce que si on danse, si on bouge, c'est généralement parce qu'il y a des sons. Et ça nous ramène vraiment à ce lien, le corps qui respire, qui bouge, etc. Et si je travaille avec un compositeur, c'est uniquement parce que je suis certain que ce compositeur a perçu l'importance de ces liens, sans quoi je prends des musiques existantes et je ne demande pas à quelqu'un de créer des musiques.
So, movement, I think, the relationship between movement and dance is also about, in a sense, the celebration of death. I think sexuality and death are the two most important things where the human body celebrates its movement. So I think all the work I make, in a sense, or celebrations and preparations for death.
Tout le lien entre le mouvement et la danse, c'est toujours à la fois une célébration, comme j'ai dit, de la sexualité, mais aussi de la mort. Une préparation, c'est une des choses pour lesquelles on bouge, on respire, on se prépare à la mort, et tout ça, c'est une célébration de la sexualité d'une part et de la mort d'autre part.
Having studied dance choreography, dancing killed my pleasure of dancing, basically, you know. When I started moving, when I was small, I just thought it was really fun, but then I really stopped enjoying it after a while. And you become really mental about everything that's going on in your body, how it has to move, becomes really calculated in a way. So I always find it difficult to mix dance and movement, so normally all the dance places are done without any music. And then the music comes later. The music is uses text most of the time, like who you sung, and then the songs become text or something to reference to what the songs are saying in the context of the picture we're trying to build. And yeah, and the text sometimes is a choreography. So like it's like these three elements really get equally mixed. And the dance is for me one thing that it's also like I have certain distance to it that I can't help because of all the references. And I work with a lot of quotations, so there's so many dance styles that you can quote it these days. You know, so it's, you don't need to make it wrong.
Je suppose que mon expérience par rapport à la danse est assez différente. Dans la mesure où j'ai étudié la danse, puis j'ai étudié la chorégraphie, mais j'ai dû prendre un certain recul par rapport à cette danse, parce que très vite on devient mental par rapport à cette danse, on devient calculateur. Et en ce qui me concerne, quand je travaille, j'ai du mal à discerner la danse et le mouvement, donc généralement je commence par la partie mouvement, la musique ne vient jamais qu'après, et la musique après c'est une musique, c'est une chanson, la chanson elle a un texte, le texte est en lien avec l'image que j'essaie de projeter, le texte devient chorégraphie, bref, tous ces éléments se mélangent, s'imbriquent. Mais je me sens forcée de prendre une certaine distance par rapport à la danse.
Dans bon nombre, on ne peut pas généraliser, mais dans bon nombre des spectacles que nous avons vus des auteurs de la scène, ce qui domine, c'est soit la vulnérabilité, la fragilité, mais en même temps, ce spectacle parle de la violence du monde. Et je voudrais leur demander, par rapport à l'expérience des spectateurs et par rapport à leur propre expérience, s'ils peuvent réfléchir là-dessus. C'est que les spectacles de Polèche, les spectacles de Garcia, les spectacles de Pipo, les spectacles de Yann Lauer, donc les spectacles de Yann, sont des spectacles où, d'un côté, le monde est présenté comme une forme d'expérience violente, agressive, et de l'autre côté, les spectacles eux-mêmes se présentent comme fragiles, adoptent très souvent une position ironique, et il y a beaucoup d'humour. Je pense que c'est peut-être une des constantes, le fait que d'un côté on dénonce le monde, et de l'autre côté on ne sait pas de lui résister autrement que par l'humour.
Je pense que c'est normal, qu'il y a toujours une relation dialectique. Hein. D'abord, l'humour est très important parce que c'est de temps en temps la seule arme qu'on a encore. Oui, c'est ça. Si l'art n'est pas connecté avec la vie, ça n'existe pas. Donc, c'est normal qu'il y a toujours cette relation dialectique, et en même temps, l'art parle que de l'art. Et cette contradiction est juste très intéressante. Et si on ne parle pas de l'art, et on ne parle que de société, on a une sorte d'art engagé, mais art engagé, là, ça n'existe pas. Où on est engagé, on fait de l'art, mais on n'a pas des mots clairs. On dit souvent de moi que je suis un artiste engagé dans la société, mais je suis juste un être humain dans la société qui est artiste. C'est différent, je pense.
Et justement, Yann, tu parlais tout à l'heure de la vulnérabilité, de la fragilité. Tous ces spectacles, comme Constanza, ce sont des spectacles qui ne donnent pas l'impression d'être des spectacles armés. Ce sont au contraire des spectacles qui peuvent à tout instant se défaire, sont des spectacles qui ne proposent pas des solutions, qui ne proposent pas non plus des positions, ne sont pas des spectacles de combat, sont des spectacles plutôt de prise de conscience, mais pas des spectacles de combat. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu ces derniers spectacles, donc ni Pipo del Bono, ni
I think first of all, I think that my work addressing on the stage. I talk about vitality, energy. And it depends, of course, on which piece, but I try sometimes to give solutions. I'm a warrior of beauty, so I'm not afraid of combat. And I think being a warrior of beauty, it's a defending beauty. And in all cases, we have to defend art, because art is something vulnerable. Art is like a butterfly. When you touch it, you kill it. So, for example, in the peace issues we saw, I took a stance. I created a future body. I tried to create it a solution. It was because I believe in a lot of pieces I make, there's always a kind of, the pieces of a kind of full of hope. Hope in the belief of the humankind. Hope in the future. Hope to create, in a sense, a better world. It's maybe old-fashioned, it's not from today, but as an artist, I believe in this. As an artist, you have to defend the humankind and believe in your work that there is a possibility to give an opening to the future with hope.
Je dirais en tout cas qu'il n'y a pas d'agressivité dans mes spectacles. J'y vois de la vitalité, j'y vois de l'énergie. Et c'est vrai que ça dépend un petit peu des pièces, mais je pense que dans certaines de mes pièces, il y a eu des ébauches de solutions. Moi, je me veux un combattant de la beauté et je me battrai pour la beauté. Je pense que l'art, c'est un truc comme un papillon, mais on y touche et on le tue en général. Donc, je me bats pour cette beauté, mais cette beauté qui reste. J'ai essayé dans une de mes dernières pièces de proposer une voie vers l'avenir, un corps du futur. Si j'ai bien une chose qu'on retrouve, je l'espère, dans mes pièces, c'est l'espoir. Je crois très très fort en l'être humain et je pense qu'il faut défendre l'humanité, qu'il faut ouvrir les fenêtres vers le futur, permettre aux gens de croire en un monde meilleur. Et c'est peut-être pas neuf, c'est peut-être pas une façon de penser très 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 nouvelle, je m'en défends, mais en tout cas je crois à l'humanité à ouvrir cette ouverture vers un monde meilleur.
Il me semble que cette ouverture vers un monde meilleur, elle passe aussi très paradoxalement par le passé. Je voudrais reprendre un des mots que Georges Bagny a évoqué en lançant cette conversation, c'est le mot de mémoire. Il me semble qu'effectivement, si le texte n'est pas la dominante de beaucoup des artistes de cette programmation du Festival d'Avignon, c'est parce qu'au fond, vous avez les uns et les autres un rapport très fort à la mémoire. La mémoire intime, la mémoire collective, la mémoire historique, mais la mémoire, comme si la mémoire venait au fond remplacer le rapport au texte dont nous parlions tout à l'heure.
I think fundamentally, as an artist, you always work with a memory of history. I mean, also as a director, when you work with people, you are containers full of memory, people. look to this part of the body. It's 1 liter and 200 grams of gray mass. It's full of memory, genetical, biological. So I think, for me also in my work, I think what I'm always trying to do, it's, I think I regard sometimes my actors and dancers as insects. And insects, we know they are even older than human beings because they are longer on this planet. They are almost like the oldest computer in the world. So they, in a sense, they contain traces of survival, of this memoir. And so I think it's always, I've always had the impression when I'm in rehearsal and I'm working with my actors and dancing and dancers, I get always the impression that I'm reinventing old rituals from 2,000 years ago. it's always feeling that you think, that you feel a moment in this state that you feel somebody else did before you 2,000 years ago. So I think that's when you reach this point, then you understand that we're humans and that we pass on things in this incredible 1 liter and 200 grams of gray mass. So I think it's important for theater also to know this and having this experience, because then you can pass something on. You've got something from other people from 2,000 years ago and you pass it on. I think so. I think, but it's, I think by definition, that for every artist, when you're serious with your job, you stumble on the awareness of memory. You only can, you're living not in the core space. When I'm working, I know the classics. I know one classical painting. I know what all these movements representing. So it's you always in dialogue with that, with this past, with this memory.
Je crois qu'en tant qu'artiste, on travaille tous toujours sur les questions de la mémoire, et la mémoire de l'histoire. Et en tant que metteur en scène, ou en tant que chorégraphe ou metteur en scène, on travaille avec les gens, et ces gens sont tous, autant qu'ils sont, des réceptacles, des récipients de mémoire. On a tous un cerveau, un ou deux matériers, ce qui est censé contenir beaucoup de mémoire, de souvenirs, des choses de l'histoire. Quand je travaille avec mes acteurs ou avec mes danseurs, j'ai aussi tendance à les comparer à des insectes. Les insectes sont encore plus vieux que les êtres humains, et ils sont un peu comme les ordinateurs historiques, les mémoires de l'histoire. Ce sont des traces de survie qu'ils portent en eux, et j'aime beaucoup cette image-là aussi. Quand on fait une répétition, on arrive parfois à un stade où on a l'impression, en pleine répétition, de recréer quelque chose que quelqu'un d'autre a créé avant nous, il y a à peu près 2000 ans de cela. Je pense que quand on arrive à ce stade-là, à ce point-là, on devient profondément humain, et on se dit qu'on a hérité de quelque chose et qu'il nous appartient à nous en tant qu'artistes, de le transmettre sur quelque chose. On devient un instrument de passage et on va retirer des références, des peintures classiques, des choses classiques et les transmettre aux gens qui viennent après moi. Et je pense que ce soit les artistes du théâtre, mais aussi les artistes en général, c'est un des rôles qu'on a, c'est un rôle de transmission et de repasser ce dont on a pu hériter et puis leur passer aux générations à venir.
Une des constantes aussi de ce travail presque apparent.
Je pense que la mémoire est tellement importante que quand on voit des gens qui n'ont pas de mémoire, c'est catastrophique. Il y a beaucoup de... Pourquoi on a fait déjà 400 guerres après la Deuxième Guerre mondiale? Parce qu'on n'a pas de mémoire. Une personne comme Le Pen ou une personne comme George Bush, ils n'ont pas de mémoire. Donc, il y a beaucoup de problèmes dans notre société, et c'est pour ça que l'art est difficile, nécessaire, important et fragile. Mais la mémoire est une très grande force et nécessité dans l'art. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment défendre l'art et montrer aussi en notre société. Moi, je me sens un homme avec un mission, avec un... Oui. Et chaque fois quand je rencontre des politiciens qui font des conneries, c'est à cause de ça, à cause qu'ils ne connaissent plus l'histoire qu'on fait toujours. Qu'on fait toujours ce choix de mensonge, de vide, parce que c'est comme, il n'y a pas de mémoire, on fait toujours des conneries. Et c'est ça, c'est entre-temps maintenant, et c'est à cause de cette... c'est pas qu'ils n'ont pas de mémoire, mais ils ne peuvent pas avoir.
Fracture of the memory habit. I'm interested in the physical representation of memory and how we represent memory with garbage these days. Now, how everything is sort of like we trace memory with souvenirs and sort of photos and stuff, and these things accumulate. And sometimes the representation of the memory becomes so much cheaper than the memory, you know. And then that's why kind of for me somehow like memory starts to bastardize in a way, because of the ways we choose to represent memory sometimes. And I'd say this in a completely daily level, you know, like completely normal people, completely like. And that's that, I think everybody, like, very small things that we attach to emotionally. For me, this is sort of like, it's like when somebody dies and you have to clean a house, and then you go through all that stuff that you don't understand why that person kept that. It's impossible to know, you know, it's impossible. I mean, it's like, even with your parents, you will never know. And this is, for me, what is fascinating of memory, the representation, the physical representation that is left behind.
Une chose à laquelle je m'intéresse particulièrement lorsqu'il s'agit de souvenirs ou de mémoire, c'est la représentation physique qu'on donne à ces souvenirs ou à cette mémoire. On va peut-être matérialiser ces souvenirs avec des photos et des choses. Et je pense que ça se passe, je ne parle pas uniquement d'un niveau artistique, je parle de la vie de tous les jours. Je suis toujours très attachée de voir quand, par exemple, une personne décède, et que ce soit ses propres parents, on doit à un moment nettoyer la maison, vider les choses, et on retrouve des choses et on se demande pourquoi cette personne a-t-elle bien pu garder telle petite chose, telle petite... C'est peut-être la façon dont on matérialise ces souvenirs et cette représentation physique de la mémoire de ses propres souvenirs, c'est quelque chose qui fascine comme ça.
Juste avant de vous donner la parole, une autre chose qui nous a frappé dans le travail de le vôtre et ceux des artistes qui s'inscrivent dans la même mouvance, c'est la conviction que parler du monde aujourd'hui, c'est adopter une position plutôt favorable au fragment, à l'éclatement, à un discours brisé et non pas dresser les grandes paraboles brechtiennes. Bien entendu qu'il y a des écrivains qui, dans les années 80, comme Müller, ont déjà défendu le fragment au niveau du texte, mais le sentiment que nous avons, c'est que les auteurs de la scène aujourd'hui privilégient tous une approche fragmentaire du réel, comme si, par cette approche fragmentaire, on arrivait à sauver la justesse, la vérité du rapport au monde.
Je pense que ça a à voir avec... quand on a maintenant une texte lumière socialement engagée, ça ne fonctionne plus. Parce que, avec tout ce qu'on connaît, la mission de Shakespeare était d'éduquer des gens. Moi, je ne veux pas éduquer des gens, moi, je veux communiquer avec des gens. Donc, il y a une grande différence. À cause de Internet, par exemple, à cause de la télévision, on doit trouver dans le théâtre, dans l'écriture du théâtre, un autre dialogue. Et peut-être c'est pour ça qu'on a choisi de temps en temps d'utiliser des textes fragmentaires pour avoir une ouverture autour et que chaque spectateur, chaque individu peut faire son propre histoire. Donc ça donne une liberté, mais en même temps c'est une fragilité qui est très intéressante.
Et peut-être on s'était posé la question avec Bruno, une dernière question de notre part, c'est que Yann Lawers le disait, on le sait que les auteurs de la scène sont des auteurs qui s'assument à part entière comme des artistes. Donc s'assumer comme des artistes, c'est en quelque sorte assumer aussi une signature d'artiste, une sorte de constitution de présence affirmée qui se transmet de spectacle en spectacle. Ce qui, en général, est refusé aux metteurs en scène qui sont, comme vous le disiez tout à l'heure, 50% artistes, 50% artisans, peut-être. Comment vous vous définissez par rapport à votre propre univers, c'est un univers qui se constitue en mouchement, qui se constitue par rapport au réel, comment on est soi-même et comment on évolue quand on est auteur de la scène. Mais je pose la question, pourquoi? Parce que je pose la question parce que au moment où il y a eu les deux grands auteurs, les deux premiers auteurs de la scène, Cantor et Wilson, très souvent ont été critiqués parce qu'ils se répétaient. Et donc, je crois que le public et la critique ne comprenaient pas qu'à partir du moment...
Je ne suis pas d'accord que Wilson et Cantor sont les premiers auteurs du scène. Hein. Shakespeare était aussi comme ça, il était là avec son troupe, il était en train d'écrire au moment même. Hein. Donc c'est toujours été comme ça. Et donc, même les Grecs, on ne sait pas ça, parce qu'il y a peut-être des milliers des auteurs de scène qui ont toujours refusé de publier leurs textes, et on a toujours fait ce théâtre dans les marges, et ce n'était jamais officialisé, donc peut-être on ne connaît même pas ça.
Mais je pense que si on entre dans une histoire un peu d'origine comme ça, mais je parlais, on est parti de cette idée que l'apparition, disons, dans le XXe siècle des auteurs de la scène a perturbé un certain nombre de personnes qui disaient, donc Cantor disait, c'est moi qui ai inventé le rapport au mannequin, c'est mon univers. Donc, d'une certaine manière, Cantor réclamait le droit de répéter son univers comme El Greco répète son univers.
Oui. Donc, et Morandi qui a fait sa peinture autour de ces trois bouteilles toute sa vie. D'ailleurs, j'ai appelé la femme peintre, la chambre d'Isabella, son nom est Isabella Morandi. C'est pour dire, mon rêve est peut-être de rester dans ma chambre et de juste faire ça, mais je ne suis pas capable, le monde est trop grand.
Une petite précision, Yann, mais aussi pour le public, cette notion d'auteur de la scène, nous l'avons mise à l'épreuve à partir d'une lecture du XXe siècle. Hein. Il s'agit bien de répondre à cette logique dominante du XXe siècle, qui est la logique de la mise en scène. Et l'invention même de ce siècle qui est le XXe siècle. Et c'est vrai que c'est par rapport à cette séquence historique-là qu'on s'est dit qu'au fond, il y avait quelques occurrences assez marginales et fulgurantes dans le XXe siècle qui amenaient progressivement, aujourd'hui on nomme dans cette formule, mais il est bien évident que si on remonte plus en arrière, le XVIIe, le XVIe, le théâtre romain, bon, ce sont des théâtres où le lien entre l'acteur et le texte se jouait complètement différemment, et pas du tout avec cette figure du metteur en scène.
Je pense qu'on a trois périodes du grand théâtre. On a le théâtre, et maintenant j'oublie un peu la France en ça, je m'excuse, mais on a le théâtre grec, on avait le théâtre élisabétain avec Shakespeare, et on a Hollywood, ça c'est le troisième. Hollywood. Steven Spielberg et le Shakespeare de notre temps, qui ont le sens qu'ils veulent, avec par exemple Schindler's List, il a choisi un médium. Qui est, tout le monde peut voir ça à la télé, dans le cinéma, il veut éduquer des gens, comme Shakespeare a fait. Et donc le théâtre a une autre mission. On doit réinventer le théâtre chaque fois de nouveau. Et la force du théâtre, c'est qu'on vient ensemble dans un petit salon préinvité pour voir un être humain sur scène. Et ça, c'est l'espoir de nouveau. L'espoir du théâtre, c'est l'espoir de la beauté. Et l'espoir de l'optimisme, qu'un Fab a dit, l'optimisme. L'espoir du futur, le belief in mankind. C'est ça ce qui est très important.
Par rapport à cette histoire d'univers d'artistes qui s'impose à travers le spectacle et qui est à la fois le même et différent. You are not only in relation with the text, a director, for example, even Patrice Chéreau, he has not exactly his universe. And how your universe is movement within the kind of working process, or the universe is already done, from exactly right?
Of course, first of all, I call myself as a very young artist, so I'm just beginning. for me, of course, it's a very complex situation. At the same time, it's for example, when I created Just Pisson. I mean, this goes back into 78, 79, when I made my first blood drawings. The first blood drawings I made was by looking at an exhibition in Bruges to see the Flemish classical primitives, all the Christ images and the cuts in the wounds. And for that reason, I started working with my own blood to making drawings. Over a stretch of more than 25 years, I made a lot of blood drawings, and it was research because I'm always researching my body. I started writing texts about it. Then I came to here to this place. This is the Côte d'Or, 8-9 years ago. In this place, a lot of blood was given and spilled. And then I started working on the texts. To research blood in a political sense, in a philosophical sense, scientifically sense. So it's for me So it taps in your work. Sometimes I make a piece out of a sculpture from 10 years ago, sometimes drones from 20 years ago or a days to write a text. So a theater piece or a stage work that's finished can give me inspiration for a new sculpture, because every word I make, a sculptures or writings or a stage work, is in a sense questions what I ask on my on that moment itself. It's always a kind of a research, a laboratory. And the only thing what I feel to myself, in a sense as an artist, you're repeating yourself always. But at the same time, you try to go deeper and deeper and deeper and deeper into the things you're busy with, you understand? So for me, it's an organical, logical evolution in what I'm doing. And it's all, in a sense, linked to each other. so, because I'm not rentable. I'm not the part of the director who goes tomorrow to that theater to direct another piece or that theater. So I only start from the questions I ask myself or the necessity. I think the big difference between a metamorphosis and an artist is the necessity. I cannot imagine that you have a necessity 5 times a year to have the necessity to do Chekhov, then to Shakespeare, then to do Beckett, then to do Greek tragedy. so I think there's a big difference. As an artist, there has to be a necessity, a curiosity. Why you do things? Why do you want to research these things? And for me, it's something normal, something organic. So it's an evolution of 25 years. And of course, as an artist, you develop your own methods, your own symbols, your own values. Things are getting clearer and clearer for yourself, sometimes not for the public, sometimes for the outside world. Because at the same time, I think even a good theater piece takes 10 years to understand well. Some drones, they take 50 years to understand well.
Je me considère comme un jeune artiste, et quand je dis jeune artiste, c'est un artiste qui ne fait que commencer son travail. Et c'est clair que ma situation est un peu complexe. Et pour vous donner un peu quelques exemples, en 78-79, j'ai fait mes premières peintures à base de mon propre sang, qui était suite à une visite d'une exposition à Bruges, qui était une exposition des peintres comiques flamands, qui m'ont inspiré à faire ces dessins, cette recherche. C'était toujours cette recherche sur le corps dont j'ai parlé tout à l'heure. Plus tard, je suis venue ici, à Avignon, dans la cour d'honneur. J'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de sang et beaucoup de... Ça m'a toujours continué à me poser la question du sang, du corps. Le sang, mais d'un point de vue peut-être plus philosophique, d'un point de vue plus biologique. Enfin, je me suis posé énormément de questions. J'ai continué mon cheminement. Ensuite, je suis passée à des sculptures. J'ai pu faire des sculptures qui reposaient parfois sur un dessin qu'il avait de 10 ans avant. Et certains dessins m'ont inspiré pour une pièce que j'ai fait après. Enfin, tout ça est extrêmement lié. Et j'ai toujours une interrogation. Tout ce que je fais, c'est un peu comme un laboratoire. Je me pose sans cesse des questions, j'essaye d'évoluer. Je pense qu'un artiste se répète, il se répète toujours, mais il approfondit toujours son travail. Et il y a toujours, dans ce qu'il fait, une évolution logique. Je n'estime pas que je suis un metteur en scène ou un artiste alloué avec un jour une pièce dans tel théâtre, ou un jour une autre pièce dans tel autre théâtre. Moi, je me pose comme un artiste en questionnement. Et s'il y a une différence que je fais entre l'artiste et le metteur en scène, c'est qu'à mon avis, il y a une chose vraiment à la racine, c'est le besoin. L'artiste, il a des besoins que le metteur en scène peut-être n'a pas. J'imagine difficilement avoir 5 besoins par an, besoin de monter une fois à écrire, une fois à bref, une fois à... Donc j'ai un besoin de faire un travail sur moi-même, de chercher, de me re-questionner. Donc c'est toujours un travail de 25 ans, avec un artiste qui développe des méthodes, des symboles, des valeurs, qui se cherche. Et c'est vrai que parfois, il faut 10 ans pour qu'une pièce soit comprise, pour qu'il y ait une évolution, un travail qui existe. C'est un travail de recherche fondamentale.
Peut-être si vous avez des questions avant de conclure cette première rencontre.
Par rapport à donc, ce qu'on entend dire de la part de Yann Fabre, je crois
La notion que vous avez dit, donc, qui était à la base de notre débat aujourd'hui, donc une notion de docteur de la scène, je pense qu'il vaut mieux ne pas catégoriser en disant que voilà, donc l'auteur de la scène, mais c'est plutôt un artiste. Avant tout, c'est, je crois que c'est surtout quand je pense au travail de Yann Fab, c'est avant tout donc c'est un artiste tout court, et il se trouve qu'il a trouvé donc le moyen de faire de théâtre sur la scène, mais avant tout, je pense que son statut c'est un artiste. Là cette année, donc la programmation est faite donc en hommage de statut d'artiste. Personne n'a pas ouvert. En fait, tout à l'heure, vous avez parlé de mémoire. Le mémoire de la scène, effectivement, le mémoire histoire, le mémoire antique, c'est important. Mais le mémoire de la scène, par rapport donc théâtre total entre guillemets. C'est en fait déjà début du XXe siècle, ça a commencé, théâtre total. Est-ce que par rapport à cette filiation historique, les uns et les autres, comment vous construisez par rapport à cette mémoire de la scène?
The relation is the idea of total theater. It's like a kind of memory of the people. Sorry for that.
C'est ça, votre question, les réalisés, la question de savoir s'il y a un lien entre l'œuvre d'art total, par exemple, et les artistes qui sont à l'œuvre. Vous avez parlé de Wagner comme d'un épicier dans un entretien que j'ai lu. C'est vrai, vous confirmez.
Oui, often people ask me the question, is my work is Amtskunstwerk? I say no. I do not believe even in multimedia, I do not believe in hybrid forms. I believe in the idea, the parcours I went for myself is the idea of consilience. Consilience is a term is used in the 18th century. It means exactly we have things are jumping together out of different disciplines based on facts of theory. I think as an artist, what I try to do is I try to learn from the history of visual arts. And this I teach to my actors and dancers. And for that reason, they can reinterpretate maybe movement in text. I learn from, for example, biology and entomology to use this knowledge, to give this knowledge, to pass this knowledge to the people on my stage, so they can reinvent, reinterpretate their language. And it's also the other way around. By working a lot with dancers and actors, the kinetical research I learn from to make sometimes, to give new interpretation to sculpture. So the idea, I believe in the idea of consilience. I don't believe in the idea that a kind of multimedia, because multimedia is very diffuse. You see a lot of multimedia installations, they use from everything a little bit, and it's getting very confused. And for me, theater is theater, art is art, visual art, theater is theater, opera is opera. You have different mediums. The only things what I try to do is, I think, is by knowledge from the different medias to give a new interpretation to a media. So that's the reason why I do not believe in the idea of the total theater.
Je ne crois pas particulièrement à l'idée de ce théâtre total. Souvent, quand on me pose la question de savoir si j'en fais, je dis non. Je ne crois pas particulièrement au multimédia.
j'y vois une forme d'art un peu hybride. Mon parcours en moi et ma façon de travailler repose sur un mot qu'on utilisait plutôt au XVIIIe siècle, qui est le mot de la consilience. Et j'essaie de prendre différents éléments qui me viennent de différentes pratiques. Par exemple, si j'ai recours à des sciences comme la biologie, l'animalologie, je vais tirer certaines choses que je vais tenter d'inculquer et d'enseigner à mes acteurs, à mes danseurs. Et grâce à ces nouvelles connaissances, je leur propose une réinterprétation du travail qu'on est en train de faire. Mais c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et c'est un peu l'inverse aussi, si je travaille avec un groupe de danseurs, la façon dont ils bougent et toute la kinesthésie de leur mouvement, je vais l'utiliser peut-être pour réinterpréter une statue, une sculpture que je suis en train de créer. Je pense que quand on prend les formes d'art multimédia, on a tendance à mettre un petit peu tout dans tout et en faire quelque chose qui est très confus, qui est très très peu clair. Et donc je pense plutôt qu'il faut pouvoir tirer parti des différentes techniques, mais pour proposer au travers de cette interprétation des différents médias, une réinterprétation d'un média unique. Pour moi, le théâtre, c'est le théâtre, les arts plastiques, c'est les arts plastiques, et l'opéra, c'est les opéras, mais on peut apprendre les uns les autres.
Nous vous remercions pour votre attention et nous donnons rendez-vous au prochain débat qui pose la question avec les auteurs, les metteurs en scène, la question du texte et des différentes manières de se servir et de servir le texte. Voilà, merci beaucoup.